à revoir ce thème très important qui est le lien entre tous les aspects statistiques et d'optimisation dans le cadre de ce maximum de vraisemblance où on retrouve l'essentiel des grandes thématiques de machine learning où l'optimisation a pris une importance très importante. Et puis, on va ensuite regarder le cas des distributions exponentielles. C'est des distributions de probabilité éventuellement en grande dimension, mais dont le log de la probabilité est linéaire dans les coefficients. Et ça, c'est un cas très important parce que ça recouvre déjà à peu près toute la physique statistique. Et vous verrez qu'avec ces distributions, à la fois les maths sont un peu plus faciles parce qu'on peut démontrer l'existence d'un minimum unique, les algorithmes convergent, et en même temps, on se retrouve devant toutes les problématiques de la grande dimension, les mauvais conditionnements et la difficulté de définir ces probabilités, ce qui, d'une certaine manière, est lié, dans le cas des réseaux de neurones, à définir l'architecture des réseaux de neurones. Ensuite, on va regarder la convergence, autrement dit, la consistance, d'une façon assez générale, des estimateurs de maximum de vraisemblance. Ça va aussi nous amener à la notion d'information de Fisher. Et vous verrez que la notion d'information de Fisher est fondamentalement liée à ces problèmes d'optimisation, dans la mesure où l'information de Fisher, ce n'est autre qu'une mesure de Hessien, qui va aussi définir la géométrie de l'espace d'optimisation. Et on verra que c'est ça aussi qui définit, d'une certaine manière, l'incertitude qu'on peut avoir sur les estimations des paramètres. Donc c'est une notion qui est fondamentale et qui sort de ce fameux papier de 1922, comme d'ailleurs la plupart des notions, tout comme la notion de convergence ici. Et cette propriété de contrôler la précision des estimations, elle est donnée par la borne de Kramer-Rao, que l'on démontrera aussi, qui est un superbe résultat qui montre que cette information de Fisher, elle gouverne l'optimalité des estimations. Donc c'est une mesure fondamentale pour comprendre en quoi une représentation va permettre d'estimer, d'inférer la valeur des paramètres, par exemple d'un problème physique. Et il y aura un certain nombre d'exposés qui vont être faits autour de ça. Et puis ensuite, ça ne se fera sans doute pas aujourd'hui, on va avancer progressivement, comme ça on verra où on ira aujourd'hui, il y aura ces propriétés de convergence asymptotique qui sont normales, autrement dit, vers des gaussiennes de ces estimateurs, et ça c'est important pour être capable de définir des intervalles de confiance sur les estimateurs qu'on peut construire. Voilà, donc on va avancer progressivement sur ce chemin en reprenant là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire sur ce lien entre les aspects statistiques et d'optimisation. Donc, comme on l'a vu, ce qu'on veut, c'est maximiser le log vraisemblance, log likelihood, qui va être le log de la probabilité indexée par un paramètre θ a priori inconnu de l'observation x, où x ici peut être une observation de n données. D'accord ? Et ce qu'on veut, c'est maximiser ceci ou minimiser moins le log. Et donc, pour ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est une descente de gradient sur cette quantité. Autrement dit, on veut identifier le paramètre optimal. Et donc, la descente de gradient va consister à petit à petit réduire cette quantité en faisant varier le paramètre θ dans la direction du gradient. Alors normalement, c'est, si on veut faire une minimisation du moins le gradient, à ce moment-là, on va descendre dans la direction du gradient, donc c'est moins, mais moins par moins, ici, ça va nous faire un plus, alpha, gradient de log θ, on appelle ça aussi une montée de la vraisemblance par opposition à la descente de gradient. Donc c'est une descente de gradient, disons, par rapport au L tilde θ qui est moins log de θ, moins Lθ, ou une montée de gradient par rapport à la vraisemblance. Et cette descente de gradient, À partir du moment où j'ai un problème convexe, eh bien, elle va bien, strictement convexe, converger vers un minima unique. Et ce qui va jouer dans cette vitesse de convergence, c'est le Hessien. Alors, le Hessien, par rapport à θ cette quantité L de θ, ce n'est autre que l'ensemble des dérivées secondes de L par rapport à, c'est la matrice des dérivées secondes, et chacune des variables. Et puis ici, c'est une descente de gradient par rapport à moins likelihood, donc c'est moins le Hessien que je vais demander d'être positive de façon à ce que la minimisation soit convexe. Ça, c'est le critère de convexité. Et puis, de préférence, je voudrais que ce soit strictement positif. Seulement, strictement positif, ça va me garantir une convergence, mais ça ne va pas me garantir une vitesse de convergence. C'est-à-dire, ça peut être potentiellement extraordinairement lent. Et pour contrôler la vitesse de convergence, on a un problème classique de descente de gradient. Ce qui va compter, c'est les valeurs propres minimum et maximum de ces Hessiens. C'est-à-dire, si je diagonalise le Hessien et je regarde son conditionnement, donc, je considère le Hessien qui est une matrice symétrique. Ici, donc, je vais regarder moins le Hessien. Eh bien, moins le Hessien de L de θ, c'est une matrice qui va avoir une valeur propre minimum qui va être positive. Je l'écris comme ceci. Donc, on peut voir ça comme une inégalité entre matrices symétriques. Ce que ça veut dire vraiment... ces inégalités, c'est que les valeurs propres ici, une fois diagonalisées de la matrice du Hessien, eh bien, elles sont toutes entre, oui, c'est L de θ, excusez-moi, elles sont toutes entre une valeur minimum et une valeur maximum qui sont ici. Et ce qui va compter, c'est le conditionnement qu'on écrit souvent kappa carré ici, qui va être le rapport. Kappa, c'est qui va être le rapport entre la plus grande valeur propre et la plus petite valeur propre. Et effectivement, ce qu'on démontre, c'est que si alpha est plus petit que 1 sur la plus grande valeur propre, c'est-à-dire est suffisamment petit, eh bien, on va avoir une vitesse de convergence, autrement dit, la distance entre θn et le θ optimal, va être plus petit qu'une constante fois 1 moins sigma min carré sur sigma max carré, c'est mes valeurs propres, à la puissance n. Autrement dit, le taux de convergence, c'est bien donné par l'inverse du conditionnement. Et donc, si le conditionnement est mauvais, c'est-à-dire kappa est très large, ça va converger très très lentement. Donc ça, c'est résultat tout à fait classique qu'on a déjà démontré, que j'ai mentionné la dernière fois, dans le passé. Mais il faut bien se rendre compte que c'est ça la racine de la plupart des problèmes. Physiquement, si on regarde, disons, le paysage d'optimisation, ce qui va se passer, c'est que vous avez potentiellement ici la chance d'avoir un problème convexe. Mais si vous regardez, là je vais me placer simplement en deux dimensions, vous pouvez avoir une direction dans laquelle, il va y avoir une très forte courbure, et puis, je vais le faire encore pire, comme ça, et une direction dans laquelle la courbure va être beaucoup plus lente. D'accord ? Et ce qui va se passer, c'est que quand vous faites votre optimisation, le pas de gradient alpha, il est contrôlé par la plus grande courbure, parce que ce que vous voulez, c'est quand vous êtes là, c'est arriver là et pas sauter là, donc vous allez bouger un tout petit peu. Mais le problème, c'est comme vous bougez un tout petit peu, dans cette deuxième direction ici, comme la courbure, elle est très, 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 eh bien, il va vous falloir énormément de temps avant d'arriver ici. Et donc, qu'est-ce que font les méthodes de second ordre? Les méthodes de second ordre, elles observent que dans cette direction, certes, le Hessien est très grand, mais dans cette direction, il est très petit. Donc, on ajuste la direction de gradient et les amplitudes pour aller beaucoup plus vite. Le pas alpha, autrement dit, n'est pas une constante, mais il va être ajusté suivant les directions de manière à pouvoir sauter ici. Et dans ce cas-là, la descente de gradient, elle va s'écrire, ça c'est l'idée des méthodes du second ordre, moins θ n égale moins, alors là à nouveau c'est un moins par moins, c'est un plus, ça va vous donner l'inverse de la matrice des siens fois le gradient. Et si vous faites effectivement ça, eh bien là vous allez pouvoir sauter directement sur le bon endroit si vous avez exactement une parabole, en tout cas beaucoup plus proche. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais faire ça en grande dimension parce que le Hessien, c'est une matrice absolument énorme qu'on ne va jamais pouvoir estimer. Donc ça, c'est le rêve, mais ce rêve, en grande dimension et dans toutes les problématiques d'apprentissage en machine learning, on ne va jamais l'atteindre. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir quand même potentiellement faire ? Se débrouiller pour que le Hessien il soit quasi-diagonal, et on va le voir, on va pouvoir éventuellement essayer de le préconditionner par sa diagonale. Alors, cette idée, on va la voir un peu mieux dans le cas des distributions exponentielles. Donc, on va maintenant regarder ça dans ce cas qui est à la fois particulier, mais en même temps suffisamment général pour, comme je le disais, couvrir l'essentiel de la physique statistique, en tout cas des techniques classiques de physique statistique. Donc, ça correspond à ce qu'on appelle les distributions exponentielles. Et ça recouvre aussi la classification logistique qu'on a vue la dernière fois. Donc l'idée, c'est que la distribution de probabilité, je vais la prendre dans une classe qui est particulière où la probabilité, c'est une exponentielle d'un paramètre θ qui va être un vecteur en assez grande dimension, produit scalaire, donc ça c'est un produit scalaire, avec fonction u de x, et j'ai ici une constante de renormalisation. Donc u de x, qu'est-ce que c'est ? C'est en physique ce qu'on appellera le potentiel, c'est une famille de fonctions uk de x, d'accord ? Donc, je suis en dimension plus petit que certains p, d'accord ? Et donc, le produit scalaire ici, θ produit scalaire avec uk de x, ça veut dire que c'est une somme de 1 à p de mes paramètres θk, produit scalaire, avec uk de x, d'accord ? Et donc, les uk de x, ça va être en physique des potentiels qui correspondent à différents types d'interactions qui sont présents dans le système physique. Qu'est-ce que c'est que zθ ? Zθ, c'est la constante pour que l'intégrale de pθ de x dx soit égale à 1. Autrement dit, ce qu'il va falloir, c'est que zθ, l'intégrale de ceci, vaille 1. Donc zθ va être égal à l'intégrale de e puissance moins θ produit scalaire avec u de x dx, et en physique statistique, ça s'appelle la fonction de répartition. Alors pourquoi c'est un cas qui est particulièrement simple ? Parce que si vous prenez le log de la probabilité, et en particulier moins log, autrement dit, moins la vraisemblance que l'on veut minimiser, autrement dit maximiser la vraisemblance, eh bien ceci, ça va être, je vais prendre le log, je vais avoir un moins log zθ, j'ai pris un log ici, ça va être log de zθ, et puis moins log de l'exponentielle, ça me redonne l'exponentielle, avec le moins par moins, c'est un plus, θ produit scalaire avec u de x. Autrement dit, ce qui est très simple dans ce cas-là, c'est que la vraisemblance, c'est une fonction linéaire des paramètres. Alors, u de x va être typiquement très non linéaire, mais j'ai une linéarité par rapport à θ. Or, toutes mes optimisations, c'est par rapport à θ. Les gradients, c'est par rapport à θ. Donc, je vais pouvoir calculer ça de façon assez simple. Et on va commencer par là, c'est-à-dire calculer toutes les quantités qui nous intéressent. Et ensuite, je vais vous donner des exemples pour vous montrer que si on choisit bien le U de X, eh bien, on peut obtenir des modèles qui sont très puissants. Peut-être immédiatement, pour vous relier ça au réseau de neurones, dans un cas d'un réseau de neurones, vous avez vos différentes couches avec les différentes non-linéarités jusqu'à la dernière couche. Et la dernière couche, je vais appeler ça U de X. Et puis, vous avez un opérateur linéaire final, c'est le fameux θ, qui va vous sortir votre estimateur de la log probabilité. Donc, dans le cas des réseaux de neurones, grosso modo, le I de X, c'est tout ce que je calcule jusqu'à la dernière couche. Et évidemment, dans le cas des réseaux de neurones, U de X est lui-même une fonction de paramètres, et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais pour l'instant, je vais supposer que j'ai de l'information a priori, et c'est souvent le cas, en fait, quand on analyse bien le problème, bien souvent, le I de X, on n'est pas forcé de l'apprendre de façon totalement brutale. On connaît suffisamment d'informations sur les systèmes, les propriétés des objets, pour pouvoir spécifier, en tout cas en partie, le U de X. Et puis, il y a le dernier classificateur, ou série de paramètres θ. Donc la question, c'est en quoi est-ce que ça va me simplifier, en tout cas me permettre de mieux comprendre ces problèmes d'optimisation. Donc on va calculer toutes les quantités importantes. Et la première chose qu'on va montrer, c'est un résultat classique en physique statistique, c'est que si on regarde ce paramètre zθ, qui est ici la fonction de partition, en fait ça va gouverner toutes les valeurs moyennes, ce qu'on appelle les observables en physique, c'est-à-dire que si je regarde le gradient de log de zθ, autrement dit le gradient de z de θ divisé par z de θ, eh bien ça va me donner moins l'espérance par rapport à la distribution pθ de mon potentiel U de x. Et donc ça, c'est les valeurs moyennes. Les valeurs moyennes, c'est ce qu'on peut observer en physique statistique. C'est la température, c'est la pression, etc. Deuxième chose qui va m'intéresser, c'est le gradient pour pouvoir faire ma descente de gradient de la vraisemblance, c'est le gradient de L de θ. Alors, si je fais une minimisation, je mets un signe moins ici, et moins le gradient de L de θ, on va voir, c'est en fait autre que le potentiel, pas très surprenant, hein, le L de θ est linéaire dans le potentiel, moins cette quantité, c'est-à-dire l'espérance de U θ de X. Et ça me dit que si je veux que le gradient soit nul, c'est-à-dire atteindre l'état où j'ai le maximum de vraisemblance ici, eh bien, ça va correspondre. Si je suis en grande dimension, le U de X, il est proche de son espérance, ça va correspondre. Le paramètre idéal, c'est dans le cas où l'espérance vaut 0, mais si j'ai une observation, eh bien, ça va être dans le cas où U de X va être égal à l'espérance. Et puis, la dernière quantité importante, c'est le Hessien qui va gouverner la vitesse, ou moins le Hessien de L de θ. Et ce qu'on va voir, c'est que le Hessien, eh bien, ce n'est autre, c'est une matrice qui est effectivement positive, et c'est la covariance du potentiel. Et donc, ce qui va être très important, si je veux converger vite, c'est que ce potentiel est une covariance qui soit bien conditionnée, le rapport des valeurs propres soit de l'ordre de 1. Et donc là, derrière ces résultats, on a vraiment un des tout premiers résultats de base de physique statistique, c'est-à-dire on retrouve l'expression de la fonction de partition en fonction des observables, et puis toute la structure du problème. Alors, pour démontrer ça, il suffit de calculer le gradient. Donc, j'ai le likelihood ici, qui est une fonction qui est linéaire par rapport à mes paramètres. Donc, si je calcule son gradient, eh bien, je vais avoir que moins le gradient de la vraisemblance log de z de θ, ça va me donner le gradient de log de z de θ. Autrement dit, ça va me donner le gradient de z de θ sur z de θ. Et puis le deuxième terme, j'ai un produit scalaire, donc le gradient par rapport à θ, ça va me donner le deuxième membre, c'est-à-dire u de x. Donc maintenant, il faut que je calcule le gradient de z de θ. Z de θ, j'ai son expression, là-haut, c'est l'intégrale de e puissance moins θ. Donc je vais le réécrire ici. Z de θ, c'est l'intégrale de e puissance moins θ, produit scalaire avec u de x, dx. Donc si je calcule le gradient par rapport à θ, ça va me faire sortir u de x, c'est la dérivée à l'extérieur, ça va me donner donc u de x, le vecteur u de x, fois exponentielle moins θ u de x dx. Mais ce qui m'intéresse, c'est z de θ divisé par z de θ, autrement dit, je vais avoir ici z de θ moins 1, et ici, qu'est-ce que vous reconnaissez? Eh bien, c'est la probabilité P de θ. Donc ça, ce n'est autre que l'intégrale de la probabilité contre U de x. Donc ça, c'est égal à l'espérance par rapport à la loi de probabilité indexée de θ de U de x. Et donc, on a montré le premier et le deuxième résultat, puisque si vous mettez ça à l'intérieur, vous obtenez bien l'expression du gradient du likelihood. Et maintenant, le dernier, ça consiste à calculer le hessien. Pour le calculer, le hessien, on va partir de cette expression qui est ici. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hessien? Le hessien, ça peut se calculer, c'est le gradient du gradient de L de θ, c'est le gradient du gradient transpose. D'accord? La hessien d'une matrice M, je peux, par rapport à une variable, c'est le gradient du gradient par rapport à θ de M qui est transposé. D'accord? De façon générale. Et donc, ça, on l'a déjà calculé. Le gradient transposé, ça va être U transpose moins l'espérance qui est un vecteur, d'accord? U c'est un vecteur, l'espérance c'est un vecteur, c'est le vecteur de toutes les moyennes, de toutes les observables que j'ai mis, et donc on va calculer le gradient de ça. Alors le gradient par rapport à θ, le gradient par rapport à θ de U de x, ça dépend pas de θ, ça va me donner 0. Je vais donc me retrouver avec le gradient de l'espérance par rapport à θ, ici. Donc, c'est ça qu'il faut que je calcule. Donc, je vais avoir moins le gradient par rapport à θ de l'espérance. Alors, l'espérance, elle est ici, c'est-à-dire, j'ai θ moins 1, l'intégrale de U de X de puissance moins θ produit scalaire avec U de X dx. Mais c'est le gradient de l'espérance transposée. Donc je dois prendre une transposition de ça. Le vecteur, il est là, donc c'est U de X transposé. Donc, si je calcule ce gradient, j'ai un produit de deux termes. Donc, je vais d'abord avoir le gradient de z de θ, moins 1. Ça va donc me donner, avec un signe moins, ça va me donner le gradient de z de θ divisé par z de θ au carré. Ça, c'est le gradient d'une fonction moins 1, c'est le gradient divisé par la fonction au carré. Donc, ça, c'est le premier terme. Et puis, le deuxième terme, ça va être la gradient de ceci. Donc, le deuxième terme, je vais avoir le moins z de θ moins 1. Et puis, je calcule le gradient du deuxième terme. Le gradient du deuxième terme, la dépendance en θ, elle est ici. Ça va me sortir un u de x. Ça va donc être l'intégrale. Puis, j'ai à nouveau un signe moins qui va sortir. Donc, ça va me donner un signe plus. Et je vais avoir le u de x transpose. Et comme ça me sort un u de x, ça va me donner U de X, U de X transpose. Excusez-moi, ça va d'abord donner U de X fois U de X transpose. Et puis E puissance moins θ produit scalaire avec U de X, dx. OK. Alors, le gradient de z de θ oui. Alors, là, j'ai le gradient de z de θ sur z de θ. Ah, excusez-moi. Oui, mais attendez, excusez-moi. Ça, c'est le premier terme fois cette composante-là. J'ai oublié de mettre cette composante-là. Ici, c'est l'intégrale, ici, U transpose θ produit scalaire avec U de x, dx. Voilà. Là, j'ai mon expression complète. Alors, le gradient de z de θ sur z de θ, c'est ceci. Donc, je vais le mettre ici. Maintenant, ça va me donner gradient de z de θ sur z de θ, c'est moins eθ de z de u de x. Et puis ensuite, j'ai ce qui me reste, c'est 1 sur z de θ. Un produit, pardon, fois l'intégrale de U transpose de X E puissance moins θ produit scalaire X dx. Ça, c'est les calculs à la physicienne, c'est des intégrales partout. Ne vous inquiétez pas, ça va se terminer. Et puis, ensuite, il y a le deuxième terme qui est ici. Le deuxième terme, vous reconnaissez la proba, et c'est la proba de U de X, U de X transpose. Donc, autrement dit, ça, c'est l'espérance en θ de U de X, U de X transpose. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'on reconnaît ? La proba de U transpose de X. Donc ça, ce n'est autre que l'espérance par rapport à θ de U de X transpose. Et donc, qu'est-ce que j'ai récupéré comme formule ? Eh bien, j'ai l'espérance par rapport à θ de U, fois l'espérance par rapport à θ de U transpose, moins l'espérance par rapport à θ de U, U transpose. Et bien, SNA, c'est la covariance, par définition, du vecteur U de X. Donc, avec le signe moins, là, il y avait un signe moins, moins la covariance, parce que c'est un moins et un plus, excusez-moi, là il y a un plus, moins la covariance, parce que ensuite si on fait le signe moins, on a la covariance. Voilà, donc modulo les petits détails de signes, vous récupérez bien la covariance, et alors ça, qu'est-ce que ça dit ? Ben, ça dit que dans ce cas-là, le problème d'optimisation, il est d'autant plus simple que le hessien, c'est une constante. Le hessien ne dépend pas de x, d'accord ? Donc, on a une courbure, on a en fait un paysage avec une courbure qui est donnée par le hessien, qui est constant. Et donc, si on pouvait calculer le hessien, bah, clac, on l'obtiendrait d'un coup, la solution, sauf qu'on ne sait pas faire la plupart du temps. Et et voilà. Alors, avant de vous montrer des exemples, on va revenir donc à ce problème de mauvais conditionnement et je vais faire un rapide lien avec la géométrie de l'information qui va être le sujet de plusieurs séminaires. Le séminaire de Jean-François Cardozo qui sera dans 15 jours parlera de ces notions de géométrie de l'information en lien avec les problématiques justement de physique en cosmologie. Et puis, Frank Niels, qui a beaucoup développé tous ces aspects de géométrie de l'information, fera un cours un peu plus général sur les notions de géométrie de l'information et les applications diverses. Lui était professeur à Polytechnique et maintenant travaille dans le laboratoire de Sony sur des applications qui sont plus liées, je crois, à la musique. Donc, pour revenir à cet aspect, je voudrais juste discuter une seconde de ces problèmes de consistance. Si vous avez une matrice et que vous aimeriez que la matrice soit aussi proche que possible de l'identité, de façon à ce que les deux valeurs propres soient de l'ordre de 1, et ce qui fait que le conditionnement est de l'ordre de 1, vous avez une matrice symétrique. La première réaction, c'est de dire: je prends la diagonale, ça ne me coûte pas cher, et je la normalise pour que la diagonale soit égale à 1. C'est-à-dire, vous prenez votre matrice, et puis vous divisez chaque coefficient par la diagonale. La diagonale, ça va être quoi ? La diagonale de la covariance, sachant que les U de X, à nouveau, il faut bien voir que c'est des K de X. Donc, si je suppose une seconde que la moyenne est nulle, c'est quoi la covariance de U de X ? Ce n'est autre que la matrice des espérances des UK, autrement dit les corrélations entre le potentiel indexé par K et K' de X pour tout K K'. Et la diagonale en particulier, eh bien, c'est les espérances des UK au carré, autrement dit les variances. Là, je suis dans le cas où les espérances sont nulles. D'accord ? Donc, le long de la diagonale, qu'est-ce qu'on a ? On a les variances, autrement dit, les espérances, à nouveau, pour faire simple, je suppose que les moyennes sont nulles, de ces quantités-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut renormaliser les UK en divisant, si ceci je l'appelle sigma k carré, je peux prendre les UK de X et les diviser par leur déviation standard. Si je fais ça, eh bien toutes ces quantités-là, elles vont devenir égales à 1. Autrement dit, ma matrice de covariance, elle va être égale à 1 sur la diagonale. Alors, à quoi ça correspondrait de faire ça dans le cas des réseaux de neurones, à votre avis ? Dans le cas des réseaux de neurones, le U de X, là, il se trouve, c'est la dernière couche. Quel genre d'opération on fait dans les réseaux de neurones pour avoir ça ? Oui ? Oui, la batch norm. La batch norm, c'est exactement ça. Consiste à dire, chaque fois que je calcule une quantité, je m'assure que sa variance reste de l'ordre de 1. Et pourquoi je veux que sa variance reste de l'ordre de 1 ? Parce qu'avec un peu de chance, la matrice de covariance est quasi-diagonale. En tout cas, je m'assure que le long de la diagonale, la matrice de covariance va être égale à 1. Donc, quand je vais faire mon optimisation, avec un peu de chance, je suis en train de bien conditionner mon problème, et donc ça va aller plus vite. Donc, la batch norm, c'est évidemment fondamental quand vous allez faire de l'optimisation. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant ? C'est-à-dire, prendre une matrice de covariance et mettre toutes les valeurs diagonales à 1, à votre avis, est-ce que ça va vous garantir que la matrice va être bien conditionnée ? A priori, si je pose la question, c'est que non. Est-ce que vous auriez un contre-exemple ? Alors, vous pouvez prendre l'opérateur très simple, c'est la dérivée seconde, ou le laplacien. Vous avez 1, moins 1,5, moins 1,5. Prenez la valeur, vous divisez par la moitié des deux à gauche et à droite, ça va vous donner une estimation de la dérivée seconde. Donc, vous avez une matrice dans la diagonale. Et alors, en plus, c'est une matrice qui est bande, parce que et puis ensuite, c'est partout 0. D'accord ? Donc, c'est une matrice c'est une petite bande de 3 points non nuls, et puis partout ailleurs, c'est 0. Donc ça, ça ressemble beaucoup à l'identité. Et pourtant, c'est très, très, très différent de l'identité. Alors, si je la fais circulaire, le moins 1,5 là, je vais le retrouver là. Est-ce que vous savez dans quelle base je peux diagonaliser cette matrice? Donc, quand j'ai une matrice symétrique, j'ai dit, je peux toujours trouver une base dans laquelle je peux la diagonaliser. L'opérateur, qui est en fait un opérateur de convolution par moins 1,5, 1,5, 1,5, autrement dit, cet opérateur, si j'ai un signal x de t, chaque échantillon, il va me calculer x de t moins 1,5 de x de t moins 1 plus x de t plus 1. Dans quelle base est-ce que cet opérateur va être diagonalisé? Une idée. Alors, en fait, des bases, il n'y en a pas beaucoup qu'on connaisse. Hein. Des bases orthogonales en grande dimension. Je connais la base de Dirac. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre comme base? Oui. Il y a pratiquement que celle-là qu'on connaisse analytiquement en grande dimension. Ensuite, on peut en construire d'autres, ondelettes, etc. Mais standard, c'est Fourier. Est-ce que, à votre avis, ça a marché avec Fourier? Alors ça, là, on est sur la base de la base. C'est quoi comme type d'opérateur? C'est un opérateur qui a une fonction x de t associe x de t moins quelque chose et puis pour tout t. Un opérateur de convolution, si je translate x, ben, la réponse va être translatée. D'ailleurs, c'est une approximation différence finie du laplacien, de la dérivée seconde, parce qu'effectivement, si je translate x, la dérivée seconde, elle va bien être translatée. Un opérateur de convolution, ça se diagonalise dans une base de Fourier. Donc, ça va être diagonalisé dans la base de Fourier. Et dans la base de Fourier, on peut regarder c'est quoi les valeurs propres associées. En fait, c'est les valeurs propres associées à la dérivée seconde. Et si je regarde la fréquence oméga, c'est-à-dire l'index du vecteur de Fourier qui est ici e puissance i oméga t, je peux regarder la valeur propre. Donc la valeur propre, c'est quoi? C'est les variances sigma oméga carré. C'est quoi dans le cas de dérivée seconde? Ouais. Moins la fréquence au carré, puis comme je prends moins le hessien, ça va être oméga carré. Et donc vous voyez que si vous êtes en dimension n, ben, la plus petite valeur propre, ça peut être quasiment 0. Si on s'arrête à 1, ça va être 1. Et si vous êtes en dimension n ou d, ben, ça va être d carré. Donc ça va croître comme la dimension au carré. Et pourtant, la matrice, le long de la diagonale, ça vaut 1. Donc vous avez un opérateur qui est très mal conditionné. Okay ? Qui dit très mal conditionné, dit que la convergence va être très, très lente. Alors, si vous vous placez dans la base de Fourier et que vous faites ce trick là-bas qui consiste à faire une batch norme, parfait, vous allez avoir un truc diagonal et puis toute la diagonale va être égale à 1, tout va bien se passer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la batch norme, ça va marcher si vous êtes dans la bonne représentation. Si vous êtes dans la représentation de Fourier et vous faites une batch norme, tout va être parfait. En fait, c'est comme si vous implémentiez l'inverse du laplacien et donc vous êtes en train d'appliquer une technique du second ordre sans le dire. Le problème, c'est que la plupart du temps, on ne la connaît pas, cette fameuse base qui diagonalise. Et on va voir des exemples. Ça, c'est le cas très simple parce qu'on a un opérateur de convolution. Mais dès que le u de x est un peu non linéaire, on n'a aucune idée. D'ailleurs, ça a changé. Et on ne l'a pas, cette base. Donc, ce qu'on aimerait, c'est avoir des représentations qui sont quasiment aussi bonnes qu'une représentation diagonale. Et donc, ça, cet enjeu de bien comprendre les représentations qui vont presque diagonaliser pour obtenir une représentation qui va être consistante, il est au cœur de tous ces problèmes. Parce qu'il est au cœur de la construction des architectures, il est au cœur des problématiques de physique, parce que ça veut dire bien comprendre la nature des interactions. Alors, le lien avec la géométrie de l'information, c'est que toutes ces problématiques Et donc ça, ce sera beaucoup plus développé par Jean-François Cardozo et Frank Nielsen. L'idée, c'est qu'on peut revoir tout ça de façon un peu géométrique, même complètement géométrique, en disant Pθ, donc c'est une quantité qui est normalisée, ça appartient à cause de la normalisation, je ne peux pas faire Pθ, je peux pas additionner P de θ plus θ, Pθ prime, ça ne marche pas, parce que ça ne me donne pas une distribution de probabilité qui est normalisée. Donc je vais avoir des structures qui sont des espaces. Si je regarde les P de θ, je vais avoir des variétés. Et quand je fais une descente de gradient, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je suis en train de me balader sur ma variété. Et je me balade jusqu'à arriver au point qui est le maximum de vraisemblance, qui est ici. Alors, quand on bouge comme ça sur des variétés, on a envie de regarder quelle est la façon la plus efficace de bouger pour arriver à l'endroit. Et donc ça, on va adjoindre une mesure, une métrique sur cette variété. On obtient des variétés riemanniennes. Et les variétés riemanniennes, elles sont caractérisées par le fait qu'on met une mesure. Et la mesure, ça consiste à associer à chaque plan tangent une matrice symétrique qui définit cette mesure, et cette matrice symétrique, elle est précisément définie par le Hessien. Et en fait, bouger le long en bougeant le long de la métrique, ça consiste à appliquer une méthode du second ordre, c'est-à-dire appliquer l'inverse du Laplacien. Donc, donc ça, vous le verrez beaucoup plus en détail, mais en fait, on peut revoir tout ça comme des optimisations sur des variétés, et les métriques qui sont associées, on verra, sont reliées à cette notion d'information de Fisher, et quelque chose qu'on verra plus en détail dans la deuxième partie du cours, qui est la distance de Kullback-Leibler, qui va définir une métrique sur ces variétés. Donc, je ne vais pas aller plus en détail sur ce point de vue qui va vous être développé au cours de ces deux séminaires, mais c'est une très jolie façon géométrique de voir toutes ces problématiques d'optimisation sur des densités de probabilité paramétrées. Alors, on va maintenant regarder, on a vu tout ça de façon un peu abstraite, des exemples de ces distributions exponentielles. Donc le premier exemple, le plus simple que vous connaissez, c'est les distributions gaussiennes. Alors, les gaussiennes, vous connaissez ça tous, très bien. On va regarder là les gaussiennes en dimensions multiples, et beaucoup d'entre vous ont l'habitude, mais je vais quand même le reprendre, parce que c'est vraiment l'exemple qu'il faut bien maîtriser pour comprendre le reste. C'est le plus simple, c'est le cas linéaire simple, mais en même temps, c'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire qu'une distribution gaussienne, c'est une distribution dont la densité de probabilité, c'est une fonction quadratique, x transposée, j'ai l'inverse de la covariance, fois x, et puis divisé par 1,5, et puis pareil, j'ai une constante de renormalisation ici. D'accord ? Donc là, j'ai supposé que j'avais une gaussienne de moyenne nulle. Donc j'ai recentré ma distribution en zéro pour ne pas m'embêter avec. Et donc C, ce n'est autre que la matrice de covariance. Donc là, si je le vois d'un point de vue de ce que j'ai écrit avant, le vecteur de paramètres, c'est cette fameuse matrice C-1. D'accord ? Alors, pourquoi je peux le réécrire comme je l'ai dit ? Parce que si je prends X transpose C-1 X, eh bien, je peux écrire ça comme C-1 qui est produit scalaire avec la matrice X, X transpose. Ça, je l'avais montré la dernière fois, où ici, à nouveau, le produit scalaire, je vois ça comme un vecteur et ceci comme un vecteur. Cette matrice XX transpose n'est autre que l'ensemble des XI ou X de K, X de K prime pour tout K K prime. C moins 1, bah, ça va être la matrice dont les coefficients, je vais les appeler C K K prime. Et le produit scalaire, ça veut dire que c'est la somme des C K K prime, X de K, X de K prime. D'accord ? Donc, j'ai bien, si je remplace ceci par θ, une distribution qui s'écrit sous la forme e puissance moins θ, produit scalaire avec un u de x. Et là, il se trouve que le u de x, ce n'est autre que, alors si je le mets par 2, c'est mon u de x. D'accord ? Donc le u de x ici, c'est tous les produits quadratique, c'est ce qu'on appellerait en physique les interactions à deux points. Donc on regarde comment les paires de points interagissent. Et puis la covariance ici, eh bien, si il se trouve que le paramètre optimum, donc la matrice C, dans le cas d'une gaussienne, on sait qu'ici le C, ce n'est autre que l'espérance des x de k, x de k prime. Autrement dit, c'est bien la covariance par rapport à θ de u de x. Alors, quand vous avez, comme c'est une distribution gaussienne. Ce qui va être important, c'est d'analyser la covariance et de voir dans quelle base elle va être diagonalisée et quelles sont les valeurs propres. Donc, la covariance, si je suis dans un cas stationnaire, c'est le cas particulier où l'espérance, si je prends deux points x de k, x de k prime, ça, c'est une fonction de k moins k prime. Donc, quand j'ai deux points, ça ne dépend que si pensez à x comme étant une image. Eh bien, la covariance, a priori, votre image a une position qui peut être translatée. Donc, la corrélation de deux points, comme l'image peut être translatée, ne va pas dépendre de la position absolue des points, mais juste de leur distance, ici, qui est k moins k prime. Donc, si on est dans une situation comme ça, on peut à nouveau se poser la question, dans quelle base est-ce que je peux diagonaliser ma covariance ? Diagonaliser la covariance, je vais avoir une base. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma distribution de probabilité ici, gaussienne, va avoir une tête d'une ellipsoïde. Mais sauf que ce n'est pas la bonne base, là, ce que j'ai montré. Et la base qui va la diagonaliser, c'est justement pas celle-là. La base qui va la diagonaliser va être celle-là. C'est les axes principaux d'inertie. Et là, vous voyez dans ce petit dessin, eh bien ici, j'ai une variance qui est très grande. Ça, c'est mon sigma max. Et puis, le long de cette direction-là, j'ai une variance qui est beaucoup plus petite. Disons, ça, c'est mon sigma mi. OK. Donc, même question que précédemment, si je suis dans le cas stationnaire, j'ai une covariance qui est CK moins K prime, covariance matrice, vous pouvez le voir comme un opérateur. Dans quelle base ça va être diagonalisé ? C'est toujours la même réponse. C'est la base de Fourier, puisque j'ai un opérateur qui est une matrice Toplitz, invariante par translation, donc diagonalisée dans la base de Fourier. Processus stationnaire. Qu'est-ce que c'est que les valeurs propres ? Alors ça, je vous fais ça très vite, mais c'est des choses que vous avez déjà vues, et je ne veux pas passer trop de temps, parce que ce n'est pas le centre. C'est quoi les valeurs propres de la matrice de covariance dans la base de Fourier. Ça s'appelle comment? Une idée? Non? La puissance spectrale du processus. Donc le sigma, si je regarde dans le cas d'un processus stationnaire, le sigma k, là, il est indexé par la fréquence, sigma k méga, ce n'est autre que la puissance spectrale. Et alors, quand vous avez des processus, notamment des images, si vous prenez des images, si vous regardez la transformée de Fourier au carré en moyenne, eh bien, vous allez observer qu'il y a beaucoup d'énergie aux basses fréquences et que typiquement, ça a tendance à décroître comme E puissance, comme 1 sur oméga, typiquement. Donc, le rapport entre la plus grande et la plus petite valeur propre, elle est très grande, très mal conditionnée si vous prenez typiquement des images. Ça va être très souvent le cas, on va se retrouver dans des situations comme ça. Donc ça, c'est le cas d'un processus gaussien. Alors, j'ai dit, tout est autour, la distribution de probabilité, elle va se retrouver essentiellement concentrée sur des ellipsoïdes. C'est un peu bizarre parce que en même temps, si je regarde pθ de x, c'est maximum où? Eh ben, quand ça c'est le plus petit possible, l'exponentielle le plus grande possible, comme c'est négatif, c'est quand x égale 0. Donc là où la proba est maximum, c'est au centre. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'en fait c'est partout là, ce qui va nous intéresser, la densité de proba, elle est sur les ellipsoïdes? Parce qu'en fait, le point le plus probable, c'est le zéro, mais j'ai juste un point. Quand je dis ce qui va m'intéresser, c'est où vont se retrouver les réalisations. Donc, je suis en train de regarder l'ensemble, si je vois ça comme une énergie, d'accord, c'est mon θ produit scalaire avec U de x, je m'intéresse aux valeurs de cette énergie pour lesquelles il y a une grande probabilité pour observer que le système est dans cette situation. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est pas simplement regarder là où la proba elle est grande, mais aussi, il faut que j'ai beaucoup de points. Donc, ce qui va compter, c'est la proba fois le volume. Et le volume, il est dû. Ben, au centre, j'ai qu'un point, alors que le volume de ces ellipsoïdes, c'est-à-dire si je regarde la surface ici avec une petite variation, elle va être beaucoup, d'autant plus grande que l'ellipsoïde est grande. Mais si je m'éloigne loin du centre, la proba va devenir petite. Donc ce qu'on va optimiser, c'est le produit des deux, et vous allez voir qu'en fait, la mesure de probabilité, elle va se concentrer ou sur une ellipsoïde, comme ça, qui balance le terme de volume, qui est lié à l'entropie, et le terme de décroissance de l'énergie, parce que quand l'énergie est grande, eh bien, ça vaut zéro. Donc, du coup, on va se retrouver avec une forme de concentration sur ces ellipsoïdes. Et ces ellipsoïdes, c'est les fameux ensembles typiques dont j'ai parlé dans le premier cours. C'est-à-dire qu'on va avoir des phénomènes de concentration. Les réalisations, elles ne vont pas se balader partout dans l'espace avec une proba qui est quasiment égale à 1. Elles vont se retrouver sur ces domaines. Alors, ça, c'est le cas simple des gaussiennes. Donc maintenant, je vais vous montrer des exemples. Ça, c'est un exemple. Ce que vous avez sur la gauche, c'est des champs de turbulence. Voilà, merci. Donc sur la gauche, vous avez deux champs de turbulence. Le premier, c'est un fluide. Avec des vortex que vous voyez. Ça, c'est le champ de vorticité. Là où vous avez une intensité très grande, c'est que ça tourne très vite. Et ce que vous avez en bas, c'est un gaz. Donc là, vous avez, je crois, un mégaparsec, c'est-à-dire, c'est en astrophysique, donc c'est des millions d'années-lumière, et puis c'est un gaz qui est un mélange d'hydrogène, d'hélium, avec un effet de champ magnétique, et vous avez ces effets, ces formes d'agrégation des particules avec ces phénomènes turbulents. Donc, par exemple, en physique, donc là, typiquement, X, c'est l'état du système. Donc ça va décrire la densité des différentes particules. Et la question que vous vous posez, c'est quelle est la distribution de probabilité de X, d'accord ? Et vous aimeriez décrire cette distribution de probabilité sous cette forme-là, et donc, c'est-à-dire E puissance moins θ, produit scalaire avec U de X, et vous allez appeler ça l'énergie. Voilà. Et puis, vous avez des observations, c'est ce qui est sur la gauche, et vous dites, ben, on va tenter sa chance, je vais supposer que c'est gaussien. Si c'est gaussien, ben, je sais que ça peut s'écrire sous cette forme-là, et c'est, je sais que c'est la covariance, donc j'ai que à mesurer ces corrélations, et les corrélations, ben, je peux faire une mesure empirique en prenant des exemples sur une image, en calculant les corrélations sur l'image, et puis ensuite, une fois que j'ai pris un exemple d'image et j'ai calculé la corrélation, eh ben, je connais tout sur ma distribution de probabilité, donc je peux re-échantillonner ma distribution de probabilité en créant une nouvelle image qui a exactement la même corrélation qu'est une image gaussienne. D'accord ? Tout ça, ça fait parfaitement du sens. Et donc, voilà ce qui est fait ici, et vous obtenez les images sur la droite. Alors, sur les images sur la droite, ici, on est dans des cas avec des champs stationnaires, donc les densités de probabilité, des covariances, elles sont stationnaires, diagonalisées dans la base de Fourier. Donc, en fait, elles vont être caractérisées dans la base de Fourier par les valeurs propres, c'est-à-dire par la puissance spectrale, qui, en l'occurrence, a plutôt une décroissance comme ceci, comme 1 sur oméga avec un certain exposant alpha, ici, qui est caractéristique de la turbulence. Et voilà les images que vous avez sur la droite. Alors, les images que vous avez sur la droite, elles ont à peu près la même régularité, d'accord ? Mais elles n'ont absolument pas toutes les structures physiques importantes, toute la géométrie, etc., étaient totalement perdues. D'accord ? Donc, en même temps, donc ça, ces modèles, ils ne sont pas aussi naïfs que ça. Ça, c'est les modèles qu'ont proposé Kolmogorov dans un fameux papier en 1941, puis qui ont été raffinés. Et ça a été finalement la base de la recherche pour comprendre les phénomènes turbulents. Ça a été essentiellement d'étudier les modélisations gaussiennes en comprenant quelle serait la puissance spectrale, etc. Et en même temps, on est très très loin du compte. Et ce qui a été intéressant avec l'apparition des réseaux de neurones, c'est qu'on a vu l'apparition de modèles qui sont capables de reproduire ce qui est sur la gauche, c'est-à-dire des choses beaucoup, beaucoup plus précises. Mais évidemment, le U de X, ce n'est plus du tout simplement cette corrélation entre les points de l'image, c'est des transformations linéaires suivies de non-linéaires, linéaires suivies de non-linéaires. Et donc, l'étonnement devant lequel, d'une certaine manière, on est un peu tous, c'est que ça marche. Alors, qu'est-ce que... Pourtant, les physiciens, évidemment, et notamment en physique statistique, ne se sont pas croisés les doigts depuis 1945 en attendant que les réseaux de neurones arrivent. Donc, qu'est-ce qui a été fait en physique ? Ce qui a été fait en physique, les premiers types de modèles et qui ont permis de décrire des phénomènes physiques intéressants... Donc là, je vous fais un cours en 5 minutes de physique statistique, ce qui m'arrange parce que mes connaissances de physique statistique sont assez superficielles, mais je pense que ça va être le sujet d'un cours prochain, beaucoup plus approfondi, quand j'aurai appris un peu plus sur la physique statistique. Donc, le point, c'est que ces modèles sont trop simples. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut introduire pour complexifier un peu ce modèle ? Ben, vous avez un champ, c'est-à-dire une image, comme ceci, avec vos pixels qui sont les x de k. Et là, ce que vous avez décrit, c'est les corrélations entre des paires de pixels. Mais il y a au moins une chose que vous aimeriez caractériser, c'est les marginales, c'est-à-dire la distribution de probabilité du pixel, de chacun des pixels individuellement. Donc ça, c'est... Quand vous avez quelque chose qui est stationnaire, la distribution de probabilité, c'est-à-dire la variation en intensité du pixel, elle ne dépend pas de la position, donc ça va être une certaine distribution. Et il y a, par exemple, des cas, et ça, c'est notamment dans les phénomènes de ferromagnétisme, où vous pouvez avoir des distributions... Alors, dans le cas des spins, ça va être carrément 1 ou moins 1, mais si on le fait de façon un peu plus continue, donc ça, c'est ma variable, disons, je vais l'appeler S, vous allez avoir des valeurs, par exemple, qui peuvent s'accumuler aux alentours de moins 1 et 1, avec des probabilités qui vont être très fortes d'être autour de moins 1, ou autour de 1. Et puis, éventuellement, ça va être plutôt 1, plutôt moins 1. Et dans le cas où vous avez exactement des spins binaires, vous allez avoir soit du moins 1, soit du 1. Donc, pour essayer de modéliser ces propriétés qui concernent les marginales, l'idée, c'est de dire, à ce terme gaussien, on va rajouter un terme qui va contraindre les marginales, et c'est ce qu'on appelle des potentiels scalaires. Donc, le modèle d'après, juste après le modèle gaussien, c'est le modèle avec des potentiels scalaires, c'est-à-dire que U de X, il va s'écrire avec un terme qui est gaussien, et puis un terme qui va contraindre les valeurs de X en chaque point. Qu'est-ce que ça va faire, cette contrainte ? Alors, je l'ai mis sur la droite. C'est que si vous avez un potentiel V, alors excusez-moi, le P, il est là. Et ça, c'est le potentiel. Si le potentiel, il est très bas, très petit, ici, aux alentours de moins 1 et 1, eh bien, quand vous allez regarder la valeur, donc ça va être le θ produit. Le e puissance moins θ produit scalaire avec u de x. Si ceci est très petit, eh bien ceci va être plus grand. La probabilité va être plus grande. Donc ça va avoir ses potentiels. Ça va être une manière d'imposer à la fois la corrélation par le premier terme gaussien et en même temps les valeurs des coefficients. Donc ça, c'est le fameux modèle Φ4. Qui a été un peu le modèle de base. Alors là, le KJ, en fait, c'est le C. Et puis là, vous avez le potentiel. Et là, le potentiel, c'est une fonction... S puissance 4 moins une certaine fonction de S au carré. Et ça vous donne un double puits. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que on va retomber sur ces problématiques d'instabilité. Si je change un peu les paramètres de ce potentiel, et là, ça a été la découverte qui a été faite en physique statistique des phénomènes de transition de phase, ou plutôt de leur explication. Alors, qu'est-ce que c'est que les transitions de phase ? C'est quand vous passez du gaz au liquide, en changeant la température, vous passez au-dessus de 100 degrés, vous avez de l'eau sous forme de vapeur, clac, vous descendez au-dessous de 100 degrés, ça se condense et ça devient sous forme de liquide. Donc vous avez, rien qu'en changeant ce paramètre de température, tant que la température est plus grande que 100 degrés, il n'y a pas grand-chose qui se passe, sauf que la température va définir l'excitation, et puis clac, vous passez au-dessous de 100 degrés, il y a un phénomène de discontinuité, de transition de phase, et ça devient de l'eau, c'est-à-dire sous forme liquide. Et puis ensuite, vous changez la température, et bien l'eau va changer sa température, mais ça reste de l'eau. Et puis, clac, vous passez au-dessous de 0 degré, et ça devient solide. Donc, il y a une deuxième transition de phase. Alors, ces transitions de phase, ça vous dit quoi ? Ça vous dit que vous avez une instabilité totale. Vous changez un peu votre paramètre θ, parce que la température, c'est θ, c'est mon paramètre, et boum, ma distribution de probabilité change complètement de nature. Ces instabilités, c'est lié au Hessien. C'est lié au fait où vous changez un tout petit peu votre paramètre, le phénomène change totalement parce que j'ai un très mauvais conditionnement et que tout d'un coup, mes rapports de valeurs propres vont tendre vers l'infini, donc j'ai des phénomènes d'instabilité. C'est quoi l'intérêt de ces petits modèles joués, ici où j'introduis juste une contrainte sur le potentiel scalaire ? C'est que vous changez effectivement le paramètre bêta. Donc là, bêta, c'est l'inverse de la température. La température est haute, c'est comme un gaz, tout s'excite, et donc vous avez un système qui est très désordonné, d'accord ? C'est ce que vous avez en haut. Et puis, clac, quand bêta atteint la température critique, vous voyez tout d'un coup, il y a des grandes régions blanches. Blanche, ça vaut 1, noir, ça vaut 0. Et donc, il y a des phénomènes de corrélation longue portée qui se créent juste au moment où on atteint la température critique. C'est-à-dire, on change un peu ce paramètre θ et tout d'un coup, le phénomène change totalement de nature. Donc, ce qu'il y a derrière ça, à nouveau, c'est l'instabilité du Hessien. C'est le fait que vous avez un phénomène qui est complètement instable. Maintenant, c'est compliqué à analyser parce que là, maintenant, vous avez un potentiel qui est non linéaire, au sens où si je calcule le gradient, cette quantité ici, ou plutôt la covariance de cette quantité, c'est quelque chose qui va être compliqué à calculer. Et donc, une des grosses parties de l'effort en physique statistique, ça a été de comprendre la nature de ces phénomènes de transition de phase. Donc ça, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va rentrer, mais j'insiste dessus pour vous montrer que cette problématique d'instabilité qui se voit au niveau de ces calculs d'optimisation, ça se retrouve absolument partout en science, et ça a des conséquences physiques qui sont très importantes. Alors ensuite, la question, c'est est-ce qu'on peut aller au-delà de ces modèles joués un peu, de type phi 4, easing avec des 1 et moins 1, etc. Et la réponse, c'est oui, et c'est ça qui a vraiment changé la donne avec ces réseaux de neurones. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a obtenu des réseaux tels que si on optimisait grosso modo la dernière couche ou les corrélations du UDX, on arrivait à synthétiser des choses comme ça, c'est-à-dire des structures très compliquées de type turbulence. Tout le problème, c'est qu'évidemment, une fois que vous avez votre réseau de neurones, que ce soit un GAN, que ce soit un auto-encodeur ou ce que vous voulez, qui produit ça, on a des millions de paramètres et on est assez loin de comprendre la physique. D'accord ? Pourquoi ça marche ? En quoi ces paramètres sont reliés à la physique des interactions, etc. Ça, ce sont des problèmes ouverts. Donc ça, c'est le type de travaux sur lesquels on travaille. Ça, c'est un travail qui a été fait par Stephen Zhang, collaboration avec Joanne Bruna, Erwan Alice, François Levrier, François Boulanger, ces exemples ici de resynthèse en essayant de comprendre c'est quoi la nature du U de X qu'on peut définir pour être capable de capturer ces phénomènes. Et ce qu'on voit apparaître, et ce qui va être en lien avec la deuxième partie du cours, et notamment le codage, c'est qu'une des choses très importantes pour comprendre ces phénomènes, c'est de comprendre les interactions à travers les échelles. C'est-à-dire de prendre le phénomène, l'image, la découper en tranches. Chaque tranche correspond aux variations à des échelles différentes. Toutes petites échelles, c'est-à-dire les variations très rapide, très haute fréquence, mais localisée, et puis les échelles un peu plus grossières, un peu plus grossières. Et ce qui va permettre de recréer des structures géométriques aussi complexes, c'est de comprendre comment les échelles interagissent. Quand vous avez un phénomène comme une structure cohérente, comme par exemple un vortex, ça veut dire que vous avez une haute fréquence. Localement, il y a quelque chose qui se passe très vite, mais en même temps, le vortex a ses filaments, il a une étendue, et donc il y a des liens avec les échelles suivantes, et c'est ça qu'il faut arriver à exprimer. C'est ça qu'il y a derrière les maths et derrière la physique de ce type de recherche. Donc ça, c'est un travail qui a été fait aussi avec Jean-François Cardozo qui présentera donc le séminaire dans 15 jours. Et donc ça, c'est plus lié à des problématiques de cosmologie. Donc c'est aussi lié à l'exposé que va faire Brice Ménard la semaine prochaine, qui lui va montrer de façon un peu plus générale comment ces problématiques de complexité et de modélisation de champs en physique permettent d'appréhender donc ces notions de complexité et d'information. Ça, c'est un cas donc qui vient de la cosmologie. Là, ce que vous voyez, c'est une simulation numérique de l'agrégat de masse dans l'univers. Et vous savez peut-être, on voit apparaître des espèces de toiles d'araignée, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'univers, la masse s'agrège le long d'espèces de filaments tridimensionnels. Et à l'intérieur de ces filaments, vous avez des points un petit peu plus lumineux, c'est des amas de galaxies. Donc un point lumineux là-dedans, c'est un amas de galaxies. Donc on est à très, très, très grande échelle. Et une des questions, évidemment, c'est de comprendre le pourquoi de cette géométrie, d'où vient cette géométrie d'amas de masse, comment on peut la modéliser. Et donc, même chose, c'est quoi le U de X? Et puis, il y a, d'une certaine manière, un graal en cosmologie et en astrophysique, c'est de comprendre quels sont les paramètres physiques qui gouvernent cette structure géométrique qui gouverne en fait toute l'évolution de l'univers, l'apparition des galaxies, etc. Et il y a 6 ou 7 paramètres cosmologiques donc qu'on met dans un vecteur θ, et une des problématiques, c'est d'estimer ces 6 ou 7 paramètres cosmologiques, et pour les estimer, eh bien, on tombe exactement dans le cadre dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire essayer de construire des estimateurs de maximum de vraisemblance, et pour contrôler l'erreur sur ces estimateurs, il va falloir contrôler l'information de Fisher, sur lequel je ne suis toujours pas arrivé, donc vers lequel on se dirige. Donc, c'est pour vous montrer le type d'application, et là qui sera développé peut-être par Jean-François et par Brice Ménard avec des points de vue différents. Et donc, pour vous montrer que même si on est sur des modèles en apparence assez simples, c'est-à-dire linéaires, des distributions exponentielles, on arrive à couvrir des champs de modélisation extraordinairement riches à partir du moment où vous contrôlez, où vous avez bien compris comment construire le U de X. Donc ça, d'une certaine manière, si vous pensez en termes de machine learning, c'est le pendant des techniques de noyau. Les techniques de noyau, essentiellement, c'est très simple une fois que vous avez le noyau. Avoir le noyau, le noyau, ce serait lié au... Dans le cas des techniques de noyau, le noyau, ce n'est autre que... Je vous fais juste le lien. Produit scalaire entre U de X, c'est-à-dire c'est les mesures de covariance, en fait. U de X, U de X près. Excusez-moi, plutôt que l'écrire comme ça, c'est les produits scalaires, autrement dit, c'est le UU transpose. Le noyau, c'est le UU transpose, autrement dit, excusez-moi, le noyau, c'est tout bêtement la covariance. Si vous pensez en termes de technique de noyau, c'est la covariance. Donc une fois que vous avez le noyau, tout est simple, vous faites votre régression linéaire, les maths sont super simples, etc. Tout le problème, c'est d'avoir le noyau. Et ça, ça a été la limite, finalement, de ces techniques à noyau. C'est qu'une fois qu'on avait bien compris comment on faisait de l'apprentissage linéaire à partir d'un noyau, il a fallu se poser la question, OK, mais c'est quoi le noyau? Alors, OK, on peut prendre un noyau gaussien, essentiellement correspond aux distributions gaussiennes. Ça marche un peu, mais pas très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a été très longtemps bloqué jusqu'au moment où il y a eu à nouveau l'apparition de ces réseaux de neurones qui, d'une certaine manière, qu'on peut voir comme un apprentissage des noyaux, sauf que maintenant, on a envie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces noyaux et donc revenir et de comprendre la nature de ces objets. Donc, c'est vraiment l'équivalent vu d'un point de vue modélisation probabiliste. Voilà. Donc ça, je m'arrête là pour cet aspect lien avec la physique statistique, sur lequel je reviendrai quand même un peu dans le cadre de la théorie de l'information vue sous forme de Parshan. Alors, les restes 10 minutes, soit les 10 dernières minutes, je voudrais reprendre la théorie de ces estimateurs de maximum de vraisemblance pour attaquer les concepts importants qui nous restent. Donc, là, pour l'instant, tout ce qu'on a regardé, c'est le maximum de sa vraisemblance et la capacité à obtenir un estimateur optimal au sens où il maximisait cette vraisemblance. Ce qu'on a envie de savoir, c'est à quelles conditions est-ce qu'on est garanti d'être consistant. C'est-à-dire, si le nombre d'exemples augmente, donc là, je regarde le problème statistique, est-ce que je suis vraiment garanti de converger avec une probabilité 1 vers le bon estimateur, qui est celui qui minimise la vraisemblance en moyenne. Donc, on va regarder ces propriétés de maximum de vraisemblance. Alors, il y a peut-être une première propriété qui est importante, c'est l'invariance par changement de variable. Si jamais vous définissez une nouvelle variable, eta, qui est g de θ, et que vous voulez calculer l'estimateur. Donc vous avez l'estimateur θ chapeau qui va vous maximiser la vraisemblance, likelihood, par rapport à θ. D'accord ? Et maintenant, vous faites un changement de variable. Donc vous aviez une proba P de θ et vous vouliez estimer le P de θ. Et maintenant, vous avez un changement de variable. Et maintenant, votre variable, c'est état. Et la question, c'est quel va être le lien entre l'estimateur de maximum likelihood par rapport à état et celui par rapport à θ. Et évidemment, ce que vous aimeriez, c'est avoir le même résultat, c'est d'avoir une invariance. Et c'est effectivement, c'est clair que vous allez l'avoir. Alors, si jamais je regarde état chapeau égale g de θ chapeau, c'est un estimateur de max de vraisemblance. Alors que j'écris maximum likelihood estimateur. Voilà. Si θ chapeau est un estimateur de maximum de vraisemblance. Autrement dit, un changement de variable, eh bien, ce n'est pas un problème. Il suffit de faire le changement de variable sur le maximum de vraisemblance et vous obtenez le résultat. Alors, ça, c'est assez clair la raison, parce que qu'est-ce que c'est que θ chapeau ? θ chapeau, c'est l'argument max, comme je l'ai dit, de L de θ sur tous les θ. Maintenant, si vous faites... Alors, je vais supposer que G est inversible. C'est plus facile. Alors, à ce moment-là, vous allez avoir que θ, c'est G moins 1 de état. Donc, vous allez avoir ici G moins 1 de état. Et donc, maintenant, vous allez avoir une maximisation sur le état qui va me donner mon maximum de vraisemblance. Et évidemment, à quelles conditions est-ce que ça va être vrai ? Condition, s'il est unique, il n'y en aura qu'un, mais d'une manière générale, ceci va être un estimateur de max de vraisemblance. Et donc, vous avez bien que θ chapeau égale g moins 1 du maximum de vraisemblance pour état, et donc état, c'est le g de θ chapeau. Alors vous pouvez vérifier que ça c'est vrai aussi si votre G n'est pas inversible, ça c'est un exercice. Mais donc, ça c'est une propriété qui est importante, de base, et vous faites un changement de variable, il suffit de faire le changement de variable sur le maximum de vraisemblance. Alors, le résultat important que je voudrais maintenant juste aborder et qu'on démontrera plutôt la prochaine fois, c'est la consistance. Alors ça, c'est la vraie question. La consistance, elle dit que vous allez avoir, n'oubliez pas votre likelihood, il est calculé, je l'oublie, je le mets souvent pas, mais pour un certain x, c'est-à-dire c'est la vraisemblance log de pθ de x. Et x, c'est un ensemble d'observations x1, x2, xn. D'accord ? Et ce qu'on a vu, c'est que si le paramètre qui décrit les observations, c'est un θ étoile, c'est le paramètre idéal de la vraie distribution de probabilité, eh bien, si on a regardé la probabilité pour que le likelihood ou le log likelihood, c'est pareil, soit plus grand que le likelihood pour n'importe quel autre paramètre, et ce qu'on a vu, c'est que cette probabilité, elle est égale à 1. C'est-à-dire que, supérieur ou égal en tout cas, s'il y en a, je vais prendre si θ différent de θ prime. Et là, j'étais dans le cas où les distributions de probabilité sont toutes différentes pour des paramètres différents. Donc ça dit que quand on a beaucoup d'observations, le likelihood va être toujours meilleur avec, en tout cas avec une forte probabilité, quand j'ai le bon paramètre que quand je n'ai pas un bon paramètre. Mais ça, c'est différent de démontrer un autre résultat, qui est que si jamais je mesure un estimateur de maximum de vraisemblance pour des données de taille n, ce θn lui-même va converger vers le bon paramètre θ en probabilité. Et ça, c'est la notion de consistance. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce n'est pas que le likelihood soit toujours plus grand là où on est, c'est que pour un n fixé, je vais faire une estimation de mes paramètres en maximisant la vraisemblance. Est-ce que quand n tend vers l'infini, je vais bien converger vers le θ étoile? Et là, il faut une forme de convergence uniforme pour obtenir ce résultat. Donc ça, c'est le théorème que je vous donne ici et qu'on démontrera, je vais l'écrire à côté, la fois prochaine. Effectivement, ce résultat est obtenu à condition qu'on impose des conditions de régularité sur les distributions de probabilité qui demandent au moins que ces distributions soient dérivables. Alors, l'ensemble des conditions, je vais vous les rappeler. J'ai besoin que, donc la condition R0, que si θ est différent de θ', alors Pθ est différent de Pθ'. Ça, c'est une condition de régularité, d'identificabilité. J'ai besoin d'une condition de support. Je vais supposer que tous les supports des Pθ sont les mêmes. Et puis, j'ai besoin d'imposer que θ étoile est à l'intérieur de l'ensemble de paramètres de oméga. Et je vais aussi imposer que P de x, Pθ, est différenciable en θ. Alors, si je prends θ chapeau, telle que la dérivée de L de θ chapeau par rapport à dθ égale 0. Donc ça, c'est un max likelihood. Ce qui va se passer, c'est que je n'ai pas une solution unique. Il y a le cas particulier, par exemple, des distributions exponentielles où j'ai une problématique convexe et donc je vais avoir unicité. Mais en général, je ne vais pas avoir unicité. Et ce que le théorème dit, c'est qu'il existe une solution θ chapeau n telle que quand n varie, θ chapeau va converger en probabilité vers θ quand n tend vers l'infini. Donc on va avoir un résultat de consistance. Ce théorème garantit la convergence de la solution vers le bon θ étoile, ça c'est le corollaire, si la solution évidemment est unique. Donc ça, on va le démontrer la fois prochaine, et la fois prochaine, on va attaquer la notion d'information de Fisher et démontrer les bornes de Kramer-Rao. Et ça est la convergence normale, et ça nous terminera toute la partie sur cette théorie de l'information de Fisher.